Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Dans cette émission, deux reportages où le basket permet de mieux intégrer les jeunes avec un handicap.
Et la nouvelle préfète de l'Ain et le procureur de la République nous parlent du bilan de la sécurité dans le département pour 2021.
Et l'actu en bref, c'est tout de suite.
Bourque, en bref.
L'obligation de porter le masque s'assouplit dès ce 28 février.
Plus besoin d'avoir son masque dans les lieux fermés où il y a le pass vaccinal, comme par exemple les salles de spectacle, de concerts, les cinémas ou encore pour assister à un match. Mais il reste obligatoire dans les transports en commun. Côté test, un seul PCR, antigénique ou autotest, est nécessaire pour les cas contacts. En France, plus de 42 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures et il y en avait plus de 300 000 il y a un mois.
Futur bachelier, il vous reste encore un mois pour faire vos vœux.
Et ça se passe sur la plateforme Parcoursup jusqu'au 29 mars. Une nouvelle formation sera disponible à l'antenne de l'Université Lyon 1 à Bourg-en-Bresse. Le PASS, parcours spécifique accès santé. 50 étudiants seront sélectionnés pour suivre cette année de préparation aux études de médecine, maïeutique, pharmacie ou encore de kiné. Les élèves suivront leurs cours magistraux en visio sur le campus de Bourg et en simultané avec le site de Lyon. Les enseignants se déplaceront pour les travaux dirigés et après cette expérimentation, l'Université Lyon 1 pourrait ouvrir d'autres formations dans l'Ain.
Pont de Fleurville, le rapporteur public défavorable à sa construction.
Nouveau rebondissement, la construction d'un nouveau pont pour relier la Saône-et-Loire et notre département n'est toujours pas autorisée. La décision a été donnée la semaine dernière et elle n'a pas plu au conseil départemental de l'Ain qui indique ne pas la comprendre. Le département maintient qu'il a pris en compte toutes les considérations environnementales qui pourraient entraver la réalisation de ce pont. Pour rappel, le pont de Fleurville n'est plus assez solide pour laisser passer les poids lourds. Il devait faire place à un nouveau pont nommé Jacques Chirac, du nom de l'ancien président de la République. La Saône-et-Loire et l'Ain attendent maintenant la décision de la justice, mais réfléchissent déjà aux conséquences d'une possible suspension.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Direction maintenant le cinéma La Grenette à Bourg-en-Bresse où se déroule en ce moment le festival Écran Total du Cinémateur. Et on en parle avec Héloïse en stage à la radio. Bonjour Héloïse. Alors quel est le programme pour cette édition 2022?
Bonjour Audrey, bonjour à tous. Cette année, 16 films seront à l'affiche pour regrouper les Burgiens, cinéphiles ou non. C'est un festival dédié au cinéma international, présentant des films italiens, français, américains ou encore allemands. Il permet de proposer un cinéma de qualité et en version originale. Mais cette année, l'attention sera portée sur l'Afrique, grâce à 5 films à l'affiche, dont un en avant-première et une sélection de courts-métrages. Nous retrouvons le drame somalien « La femme du fossoyeur » de Kadar Ahmed, ayant obtenu l'African Movie Academy Award du meilleur film en 2021. Nous suivrons la vie d'un couple et leur fils dans les quartiers pauvres de Djibouti. Mais tout basculera quand Nasra, la mère de famille, devra se faire opérer d'urgence à cause d'une maladie rénale. Voici tout de suite un extrait.
Ma sha qarkow saara warka xubey waxa weeyaan in qalitaan ku lacag yahay hadalatiyo saastay saaxib habeen hurdalaani uma leh oo fisaw dad badan qaad inaa wada jir dibaato walba in kaga baxayna sambay ma yaan dufay new ali dufay xareba se chorchor oo yada la si chuk ku fayo bubum darka sambay waxin bukay haagtay waydan dalinda dan dalay jilbu kee dotul mi
La femme du fossoyeur sera à l'affiche le mardi 8 mars à 14h30 et 19h30 en présence de Kader Ahmed, son réalisateur, et il sera notre invité le lundi 14 mars à 18h. Alors Héloïse, quel autre film va-t-on retrouver ?
On retrouvera d'autres films comme Le Diable n'existe pas, réalisé par Mohamed Rasoulouf, qui a remporté en 2020 l'Ours d'or du Festival de Berlin. Ce drame suit quatre histoires sur l'application de la peine de mort en Iran. Au total, hors focus, une liste de films variés sera présentée. 5 en avant-première et 7 récents comme Le Peuple Loup pour les enfants ou encore Clara Sola nommée aux Oscars. Il y aura 3 séances par jour pendant le festival.
Merci Héloïse. Le festival du cinémateur Écran Total, c'est jusqu'au mardi 8 mars. Retrouvez toute la programmation sur le site cinémateur01.com.
Radio B.
Radio B.
Et le 8 mars, c'est 100% femmes sur Radio B.
Pour la journée mondiale des droits des femmes, Radio B vous fait écouter seulement des artistes féminines. Ce sera toute la journée mardi prochain sur le 90FM. Et d'autres associations organisent des événements pour cette journée. La programmation est à retrouver sur le site de l'UDAF01.
Le festival de poésie Voix mêlée est de retour pour sa 8e édition.
La poésie est à l'honneur à Bourg-en-Bresse du 5 au 26 mars. C'est le printemps des poètes qui revient. Il commence ce samedi 5 mars à la médiathèque de Pérona avec un atelier d'écriture. C'est de 11h à 12h30. C'est gratuit et sur inscription auprès de la médiathèque de Pérona. Toute la programmation est à retrouver sur le Facebook de Voix mêlée.
L'invité de Radio B.
En ce début d'année, les chiffres de la sécurité pour l'année 2021 sont sortis.
La nouvelle préfète Cécile Bigot de Kaiser a dressé le bilan du département la semaine dernière. Elle était accompagnée par le procureur de la République et les représentants de la police, de la gendarmerie, des douanes et du conseil départemental qui est aussi en charge des routes. L'un partage les mêmes évolutions qu'au national, pas de particularité. Pour la délinquance, les atteintes aux biens représentent la majorité des infractions. Elles sont quand même moins nombreuses qu'en 2019. Vient ensuite les atteintes aux personnes, c'est un quart des infractions commises et elles sont en légère augmentation. Christophe Rode, procureur de la République, nous en parle.
On parle beaucoup des violences intrafamiliales, mais c'est également une réalité incontestable dans le département de l'Ain, avec une nette augmentation des procédures qui sont effectuées à la suite de faits de violences commises sur les femmes. Mais on a également beaucoup d'augmentation concernant les violences perpétrées à l'égard ou à l'encontre des forces de police et de gendarmerie, mais pas seulement, il y a à l'égard également des sapeurs-pompiers, des personnels soignants, des enseignants, des élus. Et là, c'est une augmentation nette et je dirais même inquiétante, parce que cela traduit sans doute une tension dans les rapports entre les gens et une espèce d'impossibilité à supporter toute parcelle d'autorité et tout ce qui peut représenter l'ordre et l'intervention des forces de sécurité. Alors face à une augmentation à la fois du nombre de ce type d'infractions et de la gravité de ces infractions, naturellement, la réponse judiciaire ne faiblit pas, a plutôt tendance à s'aggraver, mais elle se diversifie également, parce que face à ces phénomènes, il est important d'apporter une réponse la plus adaptée possible, qui se traduit pas seulement par une augmentation de la gravité, avec par exemple un allongement des peines d'emprisonnement, mais également permettre d'apporter des réponses plus diversifiées, plus éducatives, avec par exemple des mesures alternatives, avec l'obligation de suivre des stages de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants ou de l'alcool, des stages de citoyenneté axés sur les phénomènes de violence intrafamiliaux. Donc ce sont des réponses qui essayent, en tout cas c'est le but, de lutter contre ces phénomènes qui se développent.
Ces mesures alternatives, vous pouvez un peu décrire à quel moment vous en donnez, à qui ?
Alors les mesures alternatives, comme le nom l'indique, sont des mesures alternatives au jugement. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'infractions, on va dire de basse intensité, il paraît plus utile d'essayer d'apporter une réponse la plus personnalisée possible et la plus adaptée possible Par exemple, va se caractériser par l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à l'usage des produits stupéfiants, de stage de sensibilisation sur les méfaits de la violence ou les méfaits de l'alcool, plutôt que de faire juger une personne par un tribunal, avec souvent des délais de comparution dans une juridiction qui sont importants, et une réponse, par exemple, une peine d'emprisonnement avec sursis, etc., qui est une réponse globale, mais qui n'est pas forcément aussi personnalisée qu'une mesure alternative. Donc l'objectif, c'est à la fois de sanctionner un acte qui a été commis, mais également d'essayer de lutter contre la récidive et d'empêcher que ceux qui ont commis une infraction renouvellent ce type de comportement.
Les violences intrafamiliales ont augmenté de 25% par rapport à 2020. Des chiffres en hausse parce que la parole se libère, selon la préfète. Elle nous explique l'amélioration de la prise en charge des victimes.
Pour accueillir les personnes vulnérables ou victimes, et les aider à être accompagnées et orientées vers les meilleurs dispositifs, policiers et gendarmes sont formés à recevoir les victimes. Sont très 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 réactifs dans l'enregistrement des plaintes, dans le traitement des dossiers. La justice est également extrêmement réactive et sévère. Et puis un certain nombre de dispositifs ont été mis en place. Par exemple, des conventions ont été signées avec tous les centres hospitaliers du département qui disposent de services d'urgence pour que le victime de violence puisse déposer plainte à l'hôpital, ne soit pas obligé de faire une démarche supplémentaire en sortant de l'hôpital pour aller dans un commissariat ou une gendarmerie pour porter plainte. Elles peuvent le faire directement à l'hôpital. Elles peuvent le faire aussi à domicile. Les gendarmes sont équipés de dispositifs qui leur permettent d'enregistrer les plaintes dès le moment où ils vont à domicile et constatent une personne victime de violence. Donc voilà, tous ces dispositifs pour mieux accueillir les victimes, mieux enregistrer les plaintes, mieux les accompagner, toute cette réactivité, cette sévérité de l'action judiciaire font que les victimes ou les proches des victimes vont beaucoup plus facilement que par le passé dénoncer ces violences, ce qui participe de la hausse des atteintes aux personnes que l'on constate cette année.
Et depuis le mois de septembre, une audience spéciale pour les violences intrafamiliales a été créée à Bourg-en-Bresse. Elle ne juge que ce type d'affaires et permet une cohérence des réponses pénales selon le procureur. C'était aussi l'occasion de faire le bilan de la sécurité routière. La préfète de l'Ain commente ces chiffres.
Nous avons une année 2021 qui est un peu meilleure que les années précédentes. Là encore, je ne vais pas comparer à 2020, qui était une année très atypique du fait de nombreux confinements. Il y a eu beaucoup moins de circulation routière et donc moins d'accidents, moins de blessés, néanmoins beaucoup de très grands excès de vitesse en 2020. Mais voilà, 2021 comparé à des années normales, entre guillemets, par exemple 2018 et 2019, est une année plutôt meilleure, moins d'accidents, moins de blessés et un nombre de tués à peu près similaire à 2018-2019. Donc une année, on va dire, pas si mauvaise. Pour autant, l'accidentalité sur les routes de l'Ain demeure très importante, trop importante. C'est quand même un nombre d'accidents très significatif, puisqu'il y en a eu 591 blessés cette année, 35 personnes qui ont perdu la vie en 2021, c'est encore beaucoup trop. Et un tiers des accidents sont le fait de personnes qui sont sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Et évidemment, les victimes sont très souvent, pour la moitié des cas, les personnes qui sont tuées sur la route sont des personnes vulnérables, des piétons, des cyclistes, des personnes à moto, enfin en deux roues. Ce sont elles les principales victimes.
Les causes de ces accidents, les erreurs humaines, conduite sous emprise de drogue ou d'alcool, inattention au volant en regardant son téléphone par exemple. Plus de 400 permis ont été retirés en 2021 à cause notamment de grands excès de vitesse de plus de 40 km/h par rapport à la vitesse réglementaire. La préfète veut continuer à lutter contre ces comportements.
Une activité de la police et de la gendarmerie qui ne va pas faillir, qui ne va pas ralentir, bien au contraire. Avec du contrôle de vitesse, avec la présence de la police et de la gendarmerie sur la route, et puis toujours des actions de prévention, des sensibilisations aux dangers de l'alcool et de la stupéfiante, des sensibilisations des piétons et des deux roues, surtout à cette époque où les modes de placement doux, le déplacement à pied, le déplacement à vélo, l'usage qui se répand aussi de l'utilisation des trottinettes. Voilà, ce sont beaucoup de sensibilisations à l'égard des personnes à deux roues qui utilisent ce type d'engin pour se déplacer. Et puis toujours, parce que l'Ain est un département pilote en la matière, des actions à l'égard des seniors. Sur les dangers liés aux angles morts, sur la révision du code de la route, sur la nécessité de porter des équipements de protection quand on est à vélo, ce qu'on n'a pas toujours appris à faire quand on était plus jeune. Voilà, c'est encore beaucoup d'actions de prévention qui seront déployées conjointement avec le conseil départemental, puisque nous avons dans ce département de l'Ain un pôle départemental copiloté par le conseil départemental et par l'État en matière de sécurité routière.
Pour lutter contre les excès de vitesse, il y a aussi 25 radars fixes dans l'Ain. 8 panneaux indiquant les zones de contrôle de vitesse vont être aussi ajoutés aux 5 déjà existants.
Vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
En reportage avec Radio B.
Deux projets d'inclusion par le basket dans notre département.
La JL Bourque, le club de basket burgien, participe à plusieurs projets pour donner accès au sport à tous. D'abord avec One Team. One Team, c'est le programme RSE de la Ligue européenne de basket. Il vise à participer au développement durable en faisant des actions sociales et environnementales notamment. Pour sa deuxième année en Eurocup, la JL Bourque invite une nouvelle fois 10 personnes de l'Institut des jeunes sourds. Ils ont entre 11 et 16 ans et s'appellent Juliette, Mathis, Erdouane, Jonathan, Larbi, Gabriel, Ayat, Tom, Linda et Martin. Le coach Nicolas Croisy encadre le projet avec Manon Fontaine. Maxime Ross, ailier de la JL, est ambassadeur du projet. Et les jeunes sont coachés aussi par trois espoirs de la JL, Anthony, Arthur et Moulay. Pour cette séance, les jeunes s'entraînent sur le terrain des pros, au programme du basket bien sûr, avec des petits matchs et quelques jeux comme le béret avec les coachs Anthony et Moulay.
Là, ils prennent le ballon après. Et c'est le premier qui marque ici.
On peut faire un exemple,
ouais.
S'il te plaît.
Là, les deux équipes, ligne de fond.
Ah, les deux sur la même ligne.
Ouais, ouais. Et en face de leur...
Je m'appelle Julie Berchoux. Je suis monitrice éducatrice à l'Institut des jeunes sourds. Et là, j'accompagne 10 jeunes pour le projet avec la JL. C'est la deuxième année. Alors, ces jeunes-là, c'est la première année. C'était sur 10 séances et là on arrive à notre 7e séance.
Larbi a 11 ans, il est à l'Institut des jeunes sourds et semble ravi d'être sur le parquet d'Equinox cet après-midi.
Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu viens ici jouer? Alors moi, pour commencer, ma sœur l'année dernière, elle est venue ici participer au projet. Elle m'a dit « Ouais, c'est super bien, essaye, demande à Julie l'année prochaine. » Moi j'aime bien faire le sport ici avec les joueurs. Moi j'aime la JL, moi j'aime tout en fait. J'aime tout.
Tu t'es fait de nouveaux camarades en venant ici, t'as rencontré de nouvelles personnes?
Bah oui, j'ai rencontré Arthur, j'ai rencontré Moulay et Anthony.
Et donc, depuis le début, vous avez fait quoi comme activité sportive?
Alors, on a commencé, on est arrivé, on a visité, c'était super bien, c'était super beau, c'était drôle, on s'est taquiné avec Nicolas le coach. Toujours, c'est trop bien. On a fait du basket, du vélo, on a discuté avec les joueurs. Voilà.
Donc vous faites le lien entre les entraîneurs, les joueurs qui ne savent pas forcément parler la langue des signes et les jeunes qui viennent jouer. Comment ça se passe ?
Alors moi, des fois, soit je joue avec eux, mais je suis plus là pour, on va dire, traduire les paroles et les aider à se faire comprendre, aussi bien dans le sens entraîneur-jeune que jeune-entraîneur. Mais de par les séances, ils arrivent quand même beaucoup à se faire comprendre. On leur a quand même donné plein de billes, aussi bien nous, professionnels, que les jeunes. Moi, j'ai pris du temps, avant de commencer le projet, de leur expliquer toutes les pathologies, entre grosses guillemets, de chaque jeune et leur apporter un tout petit peu de vocabulaire. La première séance aussi, c'était sur du vocabulaire que les jeunes, eux, ont apporté aux entraîneurs. Et du coup, bah, après, je traduis quand même pas mal leurs paroles pour expliquer les consignes, mais ils commencent à se débrouiller quand même plutôt pas mal. Et ils le prennent à cœur aussi de le faire.
Anthony Soustre, 18 ans, et je suis joueur espoir à la GL.
Moulay So, 19 ans, et joueur espoir à la GL. Nous, on explique les règles de ce qu'on fait, et leur intervenante, elle leur traduit.
Personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec ces jeunes ?
Bah déjà, c'est en rapport avec notre formation. Du coup, on a un projet à faire en fin d'année pour valider notre diplôme. Et après, ça reste une bonne expérience de découvrir autre chose, ça change.
Beaucoup de plaisir, parce que déjà, on voit un peu leur monde. C'est des jeunes qui n'ont pas l'habitude d'être avec beaucoup de bruit autour et tout, parce qu'ils sont toujours entre eux. Donc ouais, ça fait du bien de leur procurer un peu de plaisir sur le terrain.
Est-ce que vous avez appris un peu plus de leur culture sourde ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Est-ce que vous avez appris des mots ? Enfin...
Déjà, bah, on a appris nos prénoms avec le langage des signes. Et on a aussi appris qu'en plus du prénom, enfin, bah, chaque personne avait un signe approprié à lui. Donc il y en a, c'est avec des cheveux verts. Et en gros, elle nous montre ses cheveux et tout. Quelques mots aussi avec la séance avec les pros. Donc voilà.
Comment ça se passe ? Ces jeunes, ils sont à l'institut ? C'est quoi leur quotidien ?
Alors ces jeunes, ils arrivent le lundi matin à l'institut. Ils sont internes. Et ils repartent le vendredi midi. Voilà, ils sont scolarisés soit à l'institut, soit en inclusion.
Donc c'est des cours en langue des signes.
C'est des cours en langue des signes, des cours à l'oral. Il y en a qui sont sur des groupes éducatifs.
Qu'est-ce que vous diriez que ça apporte aux jeunes ?
Alors, voir le monde extérieur. Ça apporte aussi... Les jeunes ne sont pas tous sur le même groupe classe, ni même le groupe internat. Donc ça crée des liens entre eux. Ça leur fait voir beaucoup de choses. Ça leur apprend le respect, les règles de vie à l'extérieur avec des entendants. Savoir se faire comprendre avec des personnes qui ne parlent pas la langue des signes. Faire découvrir leur culture aussi. On a pu faire découvrir leur culture la semaine dernière. Donc voilà. Et puis le respect des règles, le respect rien qu'autour du basket. Quoi.
Le projet One Team de la JL a commencé en novembre et il se termine en mars. La dernière séance avec l'Institut des Jeunes Sourds se passe au Laser Game du 10-55 pour une fin dans la bonne humeur. Autre projet en lien avec la JL Bourg, le DUT-GEA de Bourg-en-Bresse a demandé l'aide de l'équipe de basket locale pour son cours de gestion de projet. Ils sont quatre et veulent organiser des moments conviviaux autour du basket avec les jeunes de l'IME de Perona, une structure qui accueille des personnes avec des déficiences intellectuelles. Elle dépend de l'association ADAPI de l'Ain. Début mars, ils vont eux aussi sur le parquet d'Equinox pour s'entraîner comme les pros et ils vont avoir la chance de voir un match de basket dans cette même salle. Mais cet après-midi, c'est dans le gymnase de l'IME qu'ils s'entraînent avec Chloé et Tristan du DUT-GEA et Alexandre, le salarié de l'IME Le Pré-Lyon.
Chanté Alexandre.
Chanté. Bonjour.
Entrez. Moi c'est Alexandre Tavernier, donc je suis enseignant en activité physique adaptée et santé à l'IME Le Pré-Lyon. Aujourd'hui,
On a fait une séance de basket en commun avec les étudiants GEA qui organisaient ça par rapport à un projet qu'ils ont dans leur cursus. Et du coup, l'objectif, c'était de se rencontrer, de faire un premier contact. On a déjà eu des projets avec des étudiants de GEA, donc c'est un partenariat qui est assez régulier. Mais ce genre de projet avec la JL, oui, c'est nouveau. Oui.
Chloé, t'es fort ou pas ?
Ça va.
On va gagner.
Moi, c'est Chloé Goyet, je suis en DUT GEA deuxième année.
Et moi, c'est Tristan Garcia, et même chose pour la formation.
C'est un projet universitaire, en fait, que l'IUT fait en partenariat avec l'association Sourire d'Enfants, donc basée à Bourg-en-Bresse. Et donc, on a eu l'idée de choisir ce projet pour être en relation avec les enfants, tout simplement. C'est quelque chose qui nous touchait plus à cœur qu'un projet institutionnel.
On a choisi de faire quelque chose de plus humanitaire. Ça, c'est la première étape de notre projet. Ensuite, on a deux autres étapes qui arrivent encore. Donc, il y a un entraînement donc, avec les joueurs pros de la JL. Et ensuite, on les emmènera voir un match de la JL, justement.
Donc, ces jeunes, ils ont entre quel âge et quel âge ?
Alors sur l'IMO, ils ont entre 6 et 20 ans, mais là, sur ce projet-là un peu plus particulier, ça va de 14 ans jusqu'à 20 ans pour les plus âgés. Il y a et de l'externat et de l'internat, sachant qu'on a 110 jeunes sur l'établissement, donc c'est l'IMO Le Pré-Lyon de l'association de l'ADAPEI de l'Ain. Et donc, il y a des jeunes qui sont là sur la journée, donc de 9h à 16h, et des jeunes qui sont internes, donc comme ce groupe, c'est que des internes qui sont là. Et donc du coup on leur propose des activités aussi en soirée. Et donc là ils sont là sur toute la semaine du lundi au vendredi pour voilà, participer aux activités en soirée.
Ils ont quel type de handicap ?
Alors c'est du handicap mental. Après on a différents handicaps qui vont se regrouper. On a des jeunes qui sont trisomiques, on a des jeunes qui sont plus sur une déficience vraiment légère. Et donc voilà, tous ces jeunes cohabitent ensemble. Et alors il y en a qui auront des profils. Pour aller en ESAT, donc des jeunes des ateliers protégés. Des jeunes qui vont aussi faire des stages sur du milieu ordinaire. Donc on a un jeune comme Tao qui va bientôt faire un stage en boulangerie. Et puis après on a des jeunes qui ont des profils avec un peu plus de difficultés où là ça sera des orientations plus sur du foyer d'accueil de vie.
Les intérêts donc pour ces jeunes de participer à ça ?
Alors le but c'est vraiment de développer l'échange au niveau de la socialisation où voilà, on est en plein dedans, d'aller voir sur l'extérieur aussi des projets un peu inclusifs. Et puis après on est toujours sur l'aspect un peu sportif où on développe la motricité à travers le sport et à travers les activités qu'on peut leur proposer.
Jules, Zédin.
Moi, 9.
Yélian, 14.
Bonjour, Kevin, c'est 17.
Christopher, j'ai 17 ans.
C'est Lucas,
j'ai 19 ans.
Tao, 15 ans.
T'as pensé quoi de cet après-midi ?
C'était bien.
J'aimais bien le basket avec les étudiants, je les ai bien aimés. J'aime bien le basket, j'en ai fait pendant 6 ans.
Génial, j'aime beaucoup, je suis très sportif.
T'as marqué des paniers ?
J'en ai marqué 2 pendant le match.
Pas mal, bien.
Ouais.
C'est quoi ton sport préféré ?
Le foot et le basket.
La boxe.
Tu peux faire de la boxe ici ?
Oui.
Ouais, mon sport préféré c'est le foot et le basket.
Basket et foot.
Ouais, et même le foot.
Mais comment vous sentez ? Donc là, on vient de finir l'entraînement. Bon, j'imagine fatigué, mais ouais, et autrement, comment vous sentez d'avoir fait ça aujourd'hui ?
Bah, non, franchement, je suis très content parce que j'appréhendais un peu, je savais pas trop comment ça allait se passer et au final ça s'est super bien passé, on n'a pas eu de problème. Là on va aller faire manger le petit goûter donc j'espère qu'ils auront un bon retour de leur côté, mais nous en tout cas, moi de mon côté, je suis très content.
Pour moi c'est pareil, c'était un super moment, pareil, appréhension, on sait pas trop forcément comment ça va se passer, mais après ils sont très attentifs, ils captent vite les choses, donc ils sont très sympas. C'est super, ça a été super ce moment avec eux. Et puis
même Alexandre, il a su les gérer, donc il a été très pédagogue avec eux ou avec nous, donc c'est génial.
Mais je comprends pas, pourquoi c'est des filles qui coupent les gâteaux, normalement il faut être galant.
Chloé, Tristan et leurs deux collègues vont accompagner cette semaine les jeunes de l'IME pour un entraînement à la JL. Et la semaine prochaine, le 8 mars, ils seront sur les gradins d'Equinox pour assister à la rencontre JL Bourg contre Valence en Eurocup.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM. Bonne semaine sur nos ondes.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, il y a une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.